Bonjour Anissa.
Bonjour Lydia.
Comment tu te sens aujourd'hui?
Je me sens calme. Il y a beaucoup d'énergie qui circule.
Bienvenue sur le podcast Zarbia, filmé et en ligne sur les plateformes, également sur les plateformes de streaming. Donc je rappelle, le podcast Zarbia, c'est un podcast qui s'adresse aux femmes qui ont décidé de pleinement être elles-mêmes. Et on a un certain nombre d'échanges sur différents sujets. Et aujourd'hui, on va parler de cheminement, de travail sur soi, ce que ça veut vraiment dire, puisque aujourd'hui, on peut se former un peu partout. On a pléthore de contenus sur le web gratuits qui délivrent des enseignements. Il y a beaucoup de formations disponibles. Et l'idée, c'est de partager un peu de mon expérience, la tienne également, et de montrer un peu où j'en suis arrivée, enfin où je suis arrivée aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai traversé. Je dirais que je suis une personne qui, très très tôt, je me posais beaucoup de questions, énormément de questions, parfois assez existentielles. J'ai trouvé des réponses un peu partout, mais jamais satisfaisantes. Et le point culminant, j'ai envie de dire, c'est quand j'ai fait un burn-out, là tout s'est écroulé. Aujourd'hui, je réalise la chance que j'ai eue de faire ce burn-out parce que je crois même que c'est un signe de santé mentale que d'en avoir fait un, pour moi en tout cas dans mon cas. Et j'ai compris beaucoup de choses avec ma tête. Pendant de nombreuses années, je comprenais beaucoup de choses. Mais je crois que je ne les vivais pas, ces choses que je comprenais. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, mais je me suis formée à beaucoup de pratiques, j'ai été en analyse, et vraiment j'avais de la compréhension sur quasiment tous les sujets, parce que ça me passionnait déjà. Mais j'ai réalisé que dernièrement, après peut-être 15 ans de cheminement, hein, ce que cela voulait dire de vivre une vérité, une connaissance même, je dirais, vivre une connaissance. Ça a été vraiment un révélateur pour moi parce que j'ai réalisé à quel point le corps il avait une fonction dans le cheminement. Je comprends l'effort physique. Quand je fais du sport, je sais que je transpire. Je vais avoir un état émotionnel après le sport, de satisfaction. J'ai fait subir quelque chose à mon corps. En tout cas, il était en mouvement. Quand on fait un travail sur soi, ou en tout cas quand j'ai fait ce travail sur soi, sur moi, je le faisais là-dedans au départ. Il n'y a que dernièrement que j'ai compris que ça devait passer par le corps. C'est ce que j'ai appris aussi au travers de l'école des artisanes que j'ai suivie, cette dimension émotionnelle, une émotion. Et encore aujourd'hui, hein, j'essaie d'apprendre. J'apprends. Et il y a une chose que j'aimerais partager, et j'espère que tu vas pouvoir aussi m'éclairer là-dessus, c'est que j'ai mis énormément, énormément, énormément de temps à comprendre quand la phrase qui dit « tout ce que tu vois, ça parle de toi. Tout ce que tu dis, ça parle de toi. » Ça a été vraiment compliqué pour moi de la comprendre. Et je pense que je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, j'ai compris parce que je suis allée dans un espace où il n'y avait plus de mots. Mais c'est très difficile de se dire « là, je suis en train de parler de cette personne et en fait, je parle de moi. » Là, j'ai posé mon regard sur une situation et cette situation que je décris, même en la décrivant, parle de moi. J'ai l'impression... Enfin, j'ai eu l'impression qu'à un moment, j'étais bloquée, quoi. Je dis, donc, en fait, je ne peux plus rien dire. Si je parle de cette situation que je n'aime pas, je suis en train de parler de moi, là. C'est pas si évident que ça. Et je sais qu'aujourd'hui, en être arrivé là, pour moi, ça a été un très long parcours. Ça veut dire quoi ? Ce que je vois, c'est moi. Non, c'est pas... Moi, j'ai envie de me défendre, de me dire, non, je ne suis pas du tout comme ça, moi. Je sais que c'est faux. Je sais que de dire ça, c'est faux. Donc, le travail sur soi.
Alors, tu parlais de ces espaces, en fait, où tout parle de moi, qui peuvent être des espaces hyper challengeants, en fait, pour ceux qui découvrent cette perception, cette vérité, d'accord ? Qui peut être quelque chose de douloureux, parce que c'est un des mécanismes d'évitement de la souffrance que préfère l'ego, projeté, en fait, sur l'autre. Donc ça, c'est une première chose. On pourra aller là-dessus peut-être un petit peu plus tard. Mais peut-être pour que ça soit déjà compréhensible dans un premier temps de cette histoire de miroir. En réalité, dans ma réalité en tout cas, dans un premier temps, c'est une bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle. avant d'aller dans les mécanismes de l'ego, c'est une super bonne nouvelle parce que tout ce qui m'arrive dans la vie, en réalité, me donne des informations sur moi. C'est trop bien. Tu vois, c'est trop bien. C'est vraiment magnifique. Parce que si à un moment donné, je donne toujours cet exemple-là dans l'école des artisanes, quand on parle de la loi d'attraction, des choses comme ça, je dis toujours, c'est comme si tu as un scanner derrière. En fait, tu vas rentrer dans le scanner ou même tu vas rentrer dans ta machine. Tu dis, bah voilà, maintenant, moi, je veux une Tesla rouge. Tu vois, et donc, ton esprit va être attiré. En fait, ton scanner, il va chercher les Tesla rouges. D'accord ? Donc, cette situation, en fait, parle de moi en permanence. C'est-à-dire que ce sur quoi mon scanner va arriver, parle à partir de mon filtre, parle à partir de ce qu'il y a dans mon microprocesseur. Dans mon microprocesseur, si on prend ça, l'exemple d'un ordinateur, il y a la Tesla rouge, il y a la femme qui a un corps parfait, il y a les gens qui ont lu Soufi mon amour, il y a, voilà. Donc, mon scanner va m'amener, va m'attirer tout ce qui est en lien avec moi. Je vais voir ça. On peut être dans la même pièce ensemble. Il y en a une, elle va voir le livre Soufi mon amour. Il y en a une, elle va voir la chaussure verte qui est à l'entrée. Il y en a une autre, elle va voir la voiture qui est garée là-bas. On ne va pas tous avoir la même perception, mais ce qui va attirer notre attention est en lien avec nous. C'est la première chose. Tu vois, ça, c'est la partie sympa, la partie de waouh. Grâce à ça, et c'est ce qu'on apprend aussi dans l'école, c'est vraiment apprendre à lire sa vie. C'est génial, parce que sinon, comment je sais ce qu'aujourd'hui je suis en train de créer dans ma vie, ce qu'aujourd'hui je suis en train de manifester dans ma vie, ou tout simplement, où est-ce que j'en suis au niveau de ma vie aujourd'hui? Simple, prends du recul. Est-ce que tu es heureuse dans ton couple? Je vais dire je d'ailleurs, est-ce que je suis heureuse dans mon couple? Comment ça se passe dans l'éducation de mes enfants? Comment ça se passe mon rapport à mon corps? Comment ça se passe tout ça? Eh bien, tout ça, la vie va me le renvoyer. Si je suis sur Instagram en train de me comparer à d'autres femmes, il y a de grandes chances que je m'aime pas, hein, il y a de grandes chances que je me compare à l'autre. Et si je regarde que des corps de femmes qui sont sveltes, bah, je vais me comparer à elles. Si je me compare à d'autres femmes qui ont les six figures, bah, je me compare au niveau de mon abondance financière. Si je me compare à des femmes qui s'en sortent avec trois enfants et elles font le hula hoop et ça marche très bien, bah, je ne suis pas assez avec mes enfants. Donc tous ces miroirs-là, en réalité, c'est une opportunité de lire ma vie. Là où ça commence à chatouiller, c'est quand je commence à voir des choses que je n'aime pas vraiment, parce que là, en l'occurrence, je me compare, etc. Et tout, mais si je vois que des bonnes choses, je décide de voir des bonnes choses, et ben, je verrai que ce qu'il y a de beau chez moi. Et d'ailleurs, c'est le cheminement qu'on propose. Le cheminement qu'on propose, ce n'est pas de tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, mais c'est la notion de voir l'amour partout. C'est vraiment d'être dans cette perception de, bah, effectivement, il y a un monde, mais derrière ça, nous sommes tous l'amour. Okay, c'est un vrai cheminement. Et cet amour que je vais percevoir n'est que le reflet de l'amour que je suis. Et là où ça pique, c'est à un moment donné, je me souviens, j'avais vu une vidéo sur internet d'une femme qui disait « Je suis choquée par les gens qui sont racistes. Je ne comprends pas les gens qui sont racistes. » Et c'était une vidéo avec Byron Katie d'ailleurs. Et Byron Katie donc, lui fait les retournements où elle la ramène à son propre miroir et elle lui dit « Ah, d'accord, donc tu es raciste des racistes.
» Là, on est typiquement face. Hein. Elle est face à son propre donc, voilà. Miroir.
Et ça pique. Hein.
Et ça pique et on ne veut pas le voir parce qu'on s'en défend même. Oui. En disant, mais moi, je ne suis pas comme ça. C'est mais ça. À partir du moment où je l'ai en moi, ce n'est qu'une projection sur l'extérieur. Je le vois parce que je l'ai en moi.
Complètement.
Si je constate, par exemple, que quelqu'un est radin,
oui.
Je me dis, mais c'est une pince. Oui. Est-ce que c'est véritablement parce que je suis une pince?
Alors, oui, c'est très subtil. C'est-à-dire
parce que... pardon, mais je pourrais me dire... Non, j'ai la preuve que je ne suis pas une pince, tu vois.
C'est ce qui va se jouer, c'est que j'ai besoin de projeter sur l'autre que c'est une pince pour me ramener à moi mon côté généreux. Parce que moi, je suis mieux que le gars qui est une pince.
Je me sers de ça, du coup.
Exactement. Parce que l'idée, c'est qu'en nous, il y a les deux. Au moment où il y a le généreux, en réalité, il y a le radin. Parce que sinon, si je suis vraiment généreuse, je ne verrai pas le radin.
Ah mais c'est le vraiment qui est subtil.
Bah oui,
alors.
Donc, bah oui, bien sûr.
Le vraiment, c'est cette vérité,
c'est ça.
Vécue,
c'est ça.
Qui fait que de toute façon, je ne vois pas la radinerie autour de moi parce que je suis exactement. Dans ma générosité.
Complètement.
Et moi, j'ai pu expérimenter cela en m'observant beaucoup et j'ai appris à m'observer. J'ai suivi des formations, dont la tienne. J'en suis arrivée à ne plus vouloir parler.
Je comprends.
Tu vois, d'être dans des endroits où je vois les personnes discuter, échanger, je sais que moi, je vais être même limite, j'ai même plus envie de regarder parce que je me dis, je vais prendre quoi là ? J'ai plus envie de parler. C'est-à-dire que J'ai pas envie de critiquer, j'ai pas envie de juger, j'ai pas... Si j'ai mon assiette, il y a à manger, j'ai pas envie de dire si elle est jolie, si elle est... J'ai juste envie de la déguster. Et là, je rentre dans un espace où vraiment, j'ai plus les mots, quoi.
Alors, là, tu vois, si on serait en accompagnement, je te dirais... Parce qu'il y a deux choses dans ce que, dans ce que tu dis, deux vibrations différentes, et c'est pour qu'on apporte plus de clarté sur le sujet. C'est qu'à un moment donné, effectivement, beaucoup de femmes ou d'âmes hein, qui font ce cheminement-là, ils arrivent après dans des espaces comme ils ont conscientisé, ouvert leur champ de conscience sur plein de choses. Ils disent non, mais attends, mais moi je vais être obligée de rompre avec mes anciens amis, ou même je vais plus pouvoir rien dire parce qu'au final, là, j'ai, tu vois, il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas le même rien que celui de la conscience. Mmh. Là, c'est un rien de la peur de devoir dire quelque chose, parce que justement, je comprends que tout ce que je dis a une conséquence. Et du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir dans ces espaces-là ? Eh bien, c'est normal, parce que quand on est dans ce cheminement-là, on prend du recul, et on est beaucoup dans l'observation. Mmh. Et en fait, quand on est dans l'observation, en réalité, on est en travail. Parce que toi-même, tu as dit, on parlait de ça ce matin, tu parlais de ton expérience, et puis tu disais, oh, mais maintenant... Je comprends que ce travail qui s'apprend, je commence à comprendre le rien à faire, mais d'abord, il y a tout à faire. Parce qu'à l'intérieur, j'introspecte mes pensées, mes émotions, mes réactions, mon corps de souffrance, tu vois, tout ce qu'on voit, en fait, dans le parcours. Et du coup, à la moindre, tu vois, vibration, changement de vibration, je dois corriger ça, tu vois, de l'intérieur. Donc, en réalité, je suis avec les autres, il se passe des choses, mais je suis obligée de me dire, OK, si je suis avec un groupe de personnes, il se passe ce qui se passe. Je suis dans le train, il se passe des trucs, je vais être en capacité de gérer ce qui se passe, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi. Et quand je fais ça de façon répétée, et on en parlait aussi, tu disais, il faut pratiquer la répétition, et à un moment donné, vraiment, toute la journée, tous les jours, 24 heures sur 24, parce qu'avant on disait ça et les gens ne comprenaient pas, ça va m'amener dans un espace, qui est un espace dans lequel l'absence de mots, et la réalité que nous sommes, les silences.
Oui, moi, je ressens beaucoup de paix à ce niveau-là.
Voilà.
C'est-à-dire que, comme tu le disais, hein, il faut beaucoup travailler pour ne rien faire.
C'est ça.
Beaucoup et rien.
C'est ça.
Et j'arrive à être dans l'espace du maintenant, décartolé, que je comprends que maintenant, alors que j'ai lu écartolé, que j'ai écouté écartolé, l'instant présent, c'est l'instant absolu de tout, en réalité. Ce n'est pas un espace vide pour moi. Et ce travail, c'est se questionner sans arrêt. Mais ce n'est pas un questionnement, moi, qui me fatigue physiquement. C'est un questionnement qui... Je sais qu'il y a derrière quelque chose de plus grand que moi. Mais je n'ai pas les mots pour le dire. Et tu sais, j'avais rencontré un maître kabbaliste à Paris. J'étais très intriguée. Je lui dis, mais c'est quoi la Kabbale ? Il dit, tu sais, c'est un enseignement qui est réservé aux hommes à partir de 40 ans. Et je dis, fais-moi goûter, dis-moi. En quoi ça consiste ? Donc, très rapidement, il me dit que c'est découvrir les secrets de la création de l'univers. Dont seul Dieu, appelez-le, choisissez la source, peu importe, dont seul Dieu a le secret. Et j'étais fascinée, je me dis, waouh ! Et je dis, mais je ne comprends pas. Il va me donner un exemple. Il va me dire, tu vois, ça c'est une table. Je dis oui. Il me dit, ça c'est un verre. Il me dit oui. Donc je viens de te donner deux mots pour décrire la tasse et le verre et la table. Je dis oui. Il me dit, tu sais qu'il y a un mot pour décrire ces deux ensemble. Un mot. Seul Dieu le connaît. Et je lui dis, il me dit, et c'est ce qu'on cherche à avoir. Et là, ça a fait écho aujourd'hui, hein, ce qu'il me dit. C'est-à-dire qu'il y a un espace dans lequel je n'ai pas les mots, mais qui existe réellement, dans lequel je pénètre, parce que justement, mon ego, il est...
Il n'a pas accès à cet espace.
Il n'a pas accès à cet espace, mon mental non plus.
Non plus.
Et c'est une paix... Moi, je ressens beaucoup de paix, ce que tu appelles l'amour que nous sommes. Et pour y accéder, c'est furtif, hein, c'est beaucoup de travail. Je vais pas y arriver toute une journée, je ne suis pas... Une journée dans cet espace-là, c'est parce que j'ai, au cours d'une journée, questionné ce que j'entends, ce que je vois, ce que je dis, ce que je remarque, pour ensuite aller dans cet espace-là et comprendre pourquoi je constate cela, qu'est-ce que ça vient dire de moi, qu'est-ce que ça raconte sur moi. Et c'est hyper intéressant. Et c'est en ça où je dis que souvent, bah voilà, parfois, regarder trop de vidéos, c'est dangereux. Parce qu'il y a une réalité derrière que la personne, elle a vécu, et une expérience aussi qu'elle a vécue, mais un travail, un vrai travail. Mais pas un travail de 3 mois, d'un mois, de 10 vidéos répétées. C'est le travail de toute une vie. C'est même une quête. Enfin, la quête de sens, elle est essentielle chez chaque être humain. Toi qui accompagnes aujourd'hui des personnes, des femmes, des âmes, c'est jamais terminé en réalité. Ou est-ce qu'on peut dire à un moment donné, ça y est, j'ai obtenu les réponses que je voulais et je vais passer à autre chose ou...
Franchement, je ne pourrais même pas te répondre à cette question parce que je pense qu'on expérimente de toutes les façons jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier souffle. Voilà. Par contre, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai rencontré, il y a des âmes qui sont plus évoluées que d'autres et c'est OK. C'est pas un concours, c'est juste que c'est le cheminement. Il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres. Et ces âmes-là, en fait, vivent avec beaucoup de sérénité en fait, leur présence sur Terre. Moi, c'est ça qui m'a fascinée. J'ai dit, je veux l'illumination, je veux rencontrer vraiment ce que nous sommes, je veux arriver dans ces espaces-là, en fait. Je veux vraiment découvrir Dieu, en fait. Je veux vraiment voir ça. Et en fait, j'ai compris, dans mes expériences, en tout cas, Dieu est partout, tout le temps. Et qu'en réalité, il y en a même qui naissent, je pense, avec cette sagesse-là. Parce que ce sont des âmes qui s'incarnent déjà avec cette sagesse-là. Là où je te rejoins, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'âmes qui, actuellement, sont dans une partie de leur vie où c'est vraiment de la connaissance, beaucoup de connaissances, et c'est magnifique. Parce qu'on est dans une vie, en fait, à un moment, en tout cas, de l'humanité, où il y a beaucoup d'informations. Et c'est génial, c'est-à-dire qu'on peut vraiment accéder à des informations hyper puissantes à travers une vidéo, à travers un live, à travers un livre. Là, vraiment, tout s'ouvre actuellement, les vibrations sont hautes, donc vraiment dans ces espaces-là. Là où ça vient nous challenger, c'est qu'on est vraiment dans la savante sachante, et c'est récupéré souvent par le mental. C'est « je comprends », c'est « je sais plein de choses », etc. Et moi-même, je suis tombée dans ce piège-là à un moment donné, c'est comme je savais, j'avais l'impression d'avoir atteint le Graal. Et en fait, quand on arrive dans les espaces dans lesquels il n'y a pas de mots, qu'on cherche, parce qu'on a compris, mais c'est bizarre, à l'intérieur, ce n'est pas calme. À l'intérieur, il n'y a pas de paix. À l'intérieur, en fait, on continue à avoir cette quête-là, tu vois. Et bien, c'est qu'on n'a pas, justement, touché du doigt ces espaces, cette dimension-là. Mais on se sert de ce qu'on comprend, d'accord ? Donc c'est à ça que sert le mental. On se sert aussi du corps au niveau du ressenti. Et à force, à un moment donné, d'introspecter tout ça et de ne plus s'identifier à ce qu'on croit être, c'est-à-dire ce personnage-là, dont on fait l'expérience, et c'est trop bien, on est dans les Sims, on est dans un jeu vidéo, dans un film, c'est parfait. Et bien, à un moment donné, il y a un espace dans lequel je pénètre, et cet espace-là, en fait, c'est qui je suis véritablement. Et c'est ça qui était très compliqué pendant des années. Tu m'as tellement accompagnée sur le sujet. Je te disais, mais je ne comprends pas ce que je fais. Et surtout, je ne sais même pas comment est-ce que je vais pouvoir en parler aux autres. Comment je vais pouvoir leur dire ce que j'ai vécu, tu vois, et que finalement, tout le monde peut vivre et que tout le monde vit au moins une fois dans sa vie, tu vois, dans des espaces suspendus comme ça. Hein. Les sportifs le connaissent très bien, ils appellent ça la zone. Hein. Les artistes aussi. Hein. Mais ils ont plus l'habitude, en fait, d'aller dans ces espaces-là parce qu'ils se guidés par leur passion, etc. Et après, ça tourne en dérive parce qu'ils n'arrivent pas à trouver cette paix ou cette extase qu'on arrive à avoir dans ces moments d'ouverture, de champ de conscience, tu vois. Et ben ça, aujourd'hui, j'ai compris. Tu m'as dit, c'est pas grave, tu sais pas ce que tu fais, mais continue à le faire, tu vois. Tu vois, je suis passée par plein de trucs. Est-ce qu'il faut mettre éveilleuse de conscience? Est-ce qu'il faut mettre coach, accompagnante? Et puis je me dis, non, attends, éveilleuse de conscience, ouais, c'est très bien, mais ça je l'ai gardé quelques temps. Coach, non, j'ai pas de diplôme sur le sujet. Je peux pas expliquer à plus. Enfin, je peux pas ramener un diplôme de l'instant présent. Tu vois, s'ils demandent à cartoler,
je vais être certifiée en instant.
En instant, voilà. Ça se trouve, ça pourrait se faire.
Tu as une formation.
Tu peux être certifiée là-dedans.
Et moi, tu viens avec moi, 8. Tu vis l'instant présent direct.
Voilà. Mais je pense qu'on peut vivre l'instant présent à n'importe quel moment. Il suffit de pratiquer. Là, on peut le faire tout de suite maintenant. Mais là, on est dans une démarche d'expliquer qu'est-ce qui se joue pour pouvoir sécuriser le mental, l'émotionnel, les traumas, d'accord ? Pour pouvoir aller en sécurité dans ces espaces qui ne sont pas accessibles au mental. C'est ça toute la difficulté. C'est que quand j'arrive dans ces espaces-là, il y a une fraction de seconde dans laquelle je vais me faire... Oh, c'est bizarre, je suis au même endroit, je parle à la même personne, mais j'ai l'impression que je connais, mais je ne connais pas. C'est très apaisant, et en même temps, il y a cette peur, en fait, de l'ego, dans cette fraction de seconde qui est, je ne connais pas, et je suis en panique. Mais si on y va accompagné, si on a la conscience, la responsabilité et vraiment le courage d'y aller, eh ben, c'est pas du tout confortable, mais c'est magnifique à vivre.
C'est vrai que c'est pas confortable.
Du tout.
Et je rebondis sur ce que tu as dit précédemment. J'ai, je pense, vécu aussi la même chose. J'avais acquis beaucoup de connaissances et je pensais que je savais. Puis il y a eu mon burn-out. Et j'ai compris en fait qu'il fallait que je déconstruise tout ce que je savais pour le vivre.
C'est ça.
Et c'est là où le travail a commencé véritablement. C'est-à-dire, c'était bien, toutes les connaissances que j'ai acquises, elles étaient super, je me suis formée. Mais c'est comme si je n'étais pas prête en fait. Et je crois que...
Je crois que tu étais prête.
Non, mais je crois que c'est comme toute chose, on arrive au monde, on ne sait pas marcher, on ne sait pas parler... Voilà, on arrive, on est un bébé, on est dépendant de sa mère, de son père, et on apprend à s'autonomiser. Et j'ai le sentiment, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté aujourd'hui, à la lumière de ce que j'ai vécu par le passé, que oui, le temps, il est important. Et je me souviens qu'en analyse, je disais à mon psy, moi, je crois que la résilience, ça ne marche pas sur moi. Il rigolait, il me dit, c'est-à-dire, je crois que je n'ai pas vécu l'enfer pour remonter à la surface, ça va trop bien, peut-être que ça va trop bien, je n'ai pas eu assez de grands traumatismes, ça va trop bien, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je ne le comprenais pas intellectuellement, mais parce que je ne le vivais pas non plus, parce que je ne vivais pas...
Mais ce que tu viens de dire, c'est hyper puissant, hein,
tu vois.
Parce qu'il y a énormément de cas dans notre vie, ou dans ma vie, où tout se passe bien. Et comme on en parlait ce matin en off, je me dis en fait, on est addict en fait, à la souffrance. Mmh. Donc du coup, quand ça va bien, on va chercher des problèmes pour dire oh, j'ai failli être heureuse.
j'ai failli réussir.
Oh là là, on l'a échappé belle.
Ouais. C'est pas évident à comprendre ça.
Non, parce qu'on cherche à le comprendre. Mmh.
Parce que c'est dans un espace où
exactement.
On doit le vivre.
C'est ça. Mais parce que c'est dans un espace dans lequel il n'y a pas de compréhension, mais on passe par le mental pour se sentir en sécurité, parce que le mental il va freak out sinon, il va rien comprendre, et c'est très très bien en fait d'être accompagné pour pouvoir, moi j'ai été par étapes, hein. J'ai été accompagnée sur ces trucs là, mais là où malheureusement peut-être je me suis rendu compte que j'en pouvais plus, c'était que je me créais systématiquement des situations dans ma vie qui étaient douloureuses pour pouvoir comprendre. Tu vois ?
Ah oui, quand même.
Bah, c'est, je pense qu'on est nombreux peut-être à faire ça, mais un divorce, un burn-out, des choses tu sais, graves, ça peut être des maladies, ça peut être des choses, et dès que ça m'arrive, tu sais, je suis en mode, oh, là, l'instant présent, je le vis, hein. C'est parce que tout va bien, je suis en train de skier, tu vois, en Suisse, j'ai des peurs, mais je me dis, bon, je me mettrais bien quand même sur un transat, je me mettrais bien dans un bain nordique, en fait, dans ce froid, non, je vais aller skier alors que j'aime pas ça, alors que je ne veux pas skier. Mais si, il faut aller affronter ses peurs. Je connais les gars qui va affronter tes peurs. Qui c'est qui t'a dit ça ?
Oui, qui te l'a dit ?
Pourquoi ? Bah, parce que moi, je suis en mode, ah ben non, il faut aller affronter ses peurs. Si j'ai peur de faire du ski, bah, c'est qu'il faut y aller. Non, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai juste besoin de m'allonger sur un transat. Mais comme il y a une addiction comme ça à faire l'expérience par la souffrance, parce que soyez honnête, hein, c'est une expérience par la souffrance et c'est ok, hein, c'est équilibré. Bah, je vais aller faire l'expérience du ski. À ce moment-là, je vais me faire une rupture des ligaments. Mais au moment où je me fais la rupture des ligaments, et je parle de ça il y a quelques mois, hein, et bah, je vais rire. Les sauveteurs, ils ne savent pas si je ris ou je pleure. Parce que je pleure parce que j'ai mal.
Elle pleure de rire.
Voilà. Je pleure parce que j'ai très très mal. Et je ris parce que je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi je ne m'écoute pas ? En fait, c'est insensé ce qu'on vit là, parce que je voulais comprendre pourquoi est-ce que dans cette situation j'ai peur, pourquoi est-ce que les gens sont complètement fous, hein. Je pense qu'il faut être taré pour faire du ski, parce qu'en réalité, ça nous prouve à quel point nous avons une énergie divine qui nous encadre en permanence. C'est vraiment, moi je posais la question au sauveteur, je lui dis, mais combien de gens meurent par jour sur la piste ? Puis, oh non, ça va, on a juste des ligaments, on a des trucs, machin, mais ce n'est pas logique. Pour mon mental, c'est incompréhensible qu'il n'y a pas autant de morts sur une piste de ski aussi dangereuse que celle-là. Rien que notre quotidien, quand on va au quotidien vivre, je peux te dénombrer le nombre d'actions où on devrait mourir la minute d'après. D'accord ? Ce n'est pas compréhensible par le mental. Pareil, quand je rencontre quelqu'un et que je vis cette intensité à l'intérieur de moi, parce que c'est ça qu'on cherche dans la relation amoureuse, c'est pour ça que ça nous passionne. C'est ça qu'on cherche dans le sexe, l'extase, dans la nourriture, tu vois. On cherche ce truc-là, on a l'impression que c'est la passion. Mais ce n'est pas la passion, c'est juste après la passion. Tu vois, c'est juste dans un espace, parce qu'en réalité, dans un orgasme, c'est juste le après. c'est juste le moment où on a tout relâché et qu'il y a un truc qui s'ouvre, c'est on a l'impression de oh, c'est un feu d'artifice. Au moment où il embrasse la première fois, tu vois, j'ai l'impression que je vais manquer d'air et en même temps je me sens pleinement en vie. C'est au moment de l'accouchement où j'accouche, ça sort, je viens de souffrir et d'un coup, hop, j'entends ce premier cri. Il y a tout qui se mélange à l'intérieur de moi. Et bien en fait, c'est ça qu'on vient chercher. Ce sont des espaces de silence, ce sont des espaces d'intensité profonde.
C'est l'après.
Ben oui.
L'après et du moment présent.
Le moment présent, en réalité, c'est, tu vois, c'est cette dimension dans laquelle je pénètre, qui est ici et maintenant. Mais souvent, avant d'avoir la révélation, tu vois, et la révélation, c'est juste vivre cet instant-là, mais dans ses tripes. Mm. C'est pour ça que parfois, si je ne comprends pas, je ne suis pas heureuse. Et les gens, ils te disent, bah oui, tu as tout dans ta vie, alhamdoulilah, tu as un mari, tu as des enfants, tu as la santé. Pourquoi tu n'es pas heureuse? Parce que c'est cet endroit-là que je cherche. C'était Cartonnet qui appelait ça la divine insatisfaction. La divine insatisfaction. Ça veut dire que je cherche quelque chose et c'est normal de chercher ce truc-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas se satisfaire du matériel, c'est trop limité.
C'est éphémère.
C'est aussi éphémère, mais tout est éphémère. Mmh. Mais c'est juste que la divine insatisfaction, c'est que c'est normal de ne pas se satisfaire en fait du matériel, de ce qu'on m'a dit, de sur le papier, etc. C'est un espace dans lequel je pénètre. Et c'est pour ça que les gens ils te disent j'ai rien et je suis heureux. Mais c'est pas que j'ai rien et je suis heureux. C'est là où on a confondu au niveau de l'abondance. Tu vois, spiritualité, abondance, il y a un vrai comme ça, alors que normalement ça va avec. C'est juste que l'espace dans lequel j'ai pénétré, en fait, j'aime ce qui est. Et souvent, c'est après un divorce, après un accident, après, tu vois, une souffrance. Parce qu'à ce moment-là, j'ai tellement souffert que je me contente, en fait, de bah, si je remarche, je suis tellement heureuse. Tu vois, c'est, là, c'est bon. Si je retrouve un travail, je suis heureuse. Si juste à un moment donné, je peux avoir un homme qui me tient la main, je serai heureuse. Et c'est là où on commet l'erreur, parfois, de se satisfaire. Et en même temps de se dire, ah non, c'était juste une expérience pour que je puisse expérimenter en fait l'extase. Voilà, tu vois, c'est ça.
Et ça m'amène à cette, justement, à cette notion de gratitude finalement, de pourquoi est-ce qu'on doit être en gratitude de ce qui est là. Ça nous rappelle en fait de ce qui est là maintenant. Si je devais faire toutes les gratitudes, ce pourquoi je suis en gratification là, maintenant tout de suite, je dirais, ben, je respire, je vois, j'entends, et c'est interminable. Ça ne peut que me mettre dans un état de joie si je cherche la joie. J'ai pas besoin d'aller chercher plus loin que moi, juste là à l'intérieur, d'aller sonder ce qui me met en joie.
Hey, parce que toi, tu as combien d'années de cheminement tu as pour arriver là? C'est devenu une compétence inconsciente, Lydia.
Ouais, j'ai mis voilà. 15 ans. Hein.
Voilà. Et sans parler du fait que tous les questionnements que tu t'es posés depuis tes petites, parce que la gratitude, on le voit bien aujourd'hui, ça marche. Mais en réalité, ce qui marche, c'est quand la démarche est sincère, il y a une énergie derrière qui commence à circuler parce que je commence à partir de l'espace du cœur.
Et d'accord, pas du manque.
Exactement. Mais si je commence à dire oui, merci et tout, et c'est pour ça que ça marche dans les pays aussi du Maghreb où on est dans Alhamdoulilah, où ça.
Qui veut dire Dieu merci.
Dieu merci. Il y a vraiment une sincérité là-dedans. Mm. On voit qu'il y a des gens qui, au niveau du matériel et tout, n'ont pas grand-chose, mais on a l'impression qu'ils ont une richesse qu'on n'a pas parfois dans les pays occidentaux, où nous, parfois, on va au fin fond du désert avec les Touaregs, ils nous servent un verre de thé, ils nous parlent de leur journée qui a été dans une lenteur pas possible et qui fait qu'on a l'impression d'avoir vécu la richesse des millions qu'on recherche, eh ben on la vit dans ces espaces-là. Parce qu'en réalité, c'est une réelle façon d'être. Et ça, ça se travaille. Et parfois, bah, les Touaregs, eux, ils sont dans la dureté qu'offre la vie en termes de résilience. Tu parlais de résilience tout à l'heure. Mais nous, on a un vrai challenge, hein, je veux dire, avec qu'on soit d'origine maghrébine, avec, on en parlait souvent de la colonisation, les croyances, les limitations, etc. On a tout à découvrir, déconstruire, pour aller dans ces espaces de découverte, ce qui a toujours été là. Parce qu'en réalité, on cherche ce qui est déjà là.
On cherche ce qui est déjà là.
Ouais, mais va comprendre ça avec ton mental.
Non, le mental, il ne comprend pas.
Non.
Et ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que moi, je constate, hein, mais en faisant mon propre examen de conscience, qu'effectivement, heureusement que je suis passée par toutes les créations, je ne parle même plus d'épreuves, mais les expériences que j'ai créées pour arriver là où je suis et de continuer. Et c'est vraiment un cheminement. Si je n'avais pas rencontré peut-être les mauvaises personnes accompagnantes à un certain moment, ben, je ne serais peut-être pas arrivée vers d'autres personnes plus compétentes pour moi. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que chaque personne que j'ai, amenée dans ma vie pour m'aider, je l'ai manifestée en fonction de ce qui se passait dans ma vie et de qui j'étais.
Oui.
C'est-à-dire que peut-être Anissa, il y a 10 ans, si j'avais peut-être 10 ans de moins, on ne se rencontrerait pas.
Ah ben,
parce que
clairement.
Je ne serais pas à l'endroit où je devrais être et tu ne serais pas la bonne personne.
Non.
Et je pense que c'est important quand on se fait accompagner, moi c'est ce que j'ai compris, d'avoir sa responsabilité. L'autre ne va pas me sauver, l'autre ne va pas me guérir, l'autre n'est pas un magicien. Je peux me tromper et j'accepte de me tromper, mais en réalité je ne me suis même pas trompée, c'était juste, il me fallait cette expérience avec cette personne pour comprendre que j'étais en train de guérir quelque chose. C'est pour ça que j'ai jamais jugé plus ou moins les personnes qui m'ont accompagnée. Avec le recul, maintenant, je me dis, j'aurais jamais dû faire ça. Mais c'est aujourd'hui que je me le dis.
Mais si c'était à refaire, tu referais ou pas?
Mais non, je le referais pas.
T'es sûre?
Peut-être que je le referais, parce qu'en fait, ça m'a permis d'être là.
Bah oui.
Première réponse de l'ego, allez hop.
Non, mais
c'est clair. Mais je pense que c'est important, quand on va voir un professionnel, de prendre sa responsabilité. C'est vous qu'allez voir le professionnel, quel qu'il soit d'ailleurs. Un accompagnant, un avocat, un coach, peu importe. Ensuite, d'être insatisfait, mais c'est toi qui as créé cette personne. Il peut y avoir des aspects contractuels, et c'est pour ça qu'il y a des contrats. Auquel cas, quand il y a un contrat, bah, c'est contractuel, c'est écrit. Mais moi, j'ai pas besoin de contrat. Je pense que c'est toujours juste. J'ai jamais été insatisfaite en réalité. Ça m'a apporté une réponse, mais même une demi-réponse.
Oui, mais parce que toi, ta détermination à te connaître toi, dans ta responsabilité, tu as compris très très vite qu'en prenant ta responsabilité, c'était chauffe-soi le hack. C'est-à-dire c'était dans ton intérêt.
Oui.
Parce que quand je reprends ma responsabilité, en fait, je suis en train de dire, ok, bon, allez, je prends ma responsabilité là, qu'est-ce que ça dit de moi? C'est la notion du miroir, justement, de tout à l'heure. Quand je le guéris tout de suite, mais ça pique, c'est pas grave, parce que je vais arrêter d'attirer cette situation dans ma vie, je vais arrêter de souffrir. Tout simplement. C'est-à-dire que parce que c'est dans mon intérêt, parce que toi, tu l'as tellement bien intégré. Tu vois, même quand tu parles de création, tu vois, pour beaucoup de gens encore, ne comprennent pas cette notion de création, parce qu'en réalité, on a l'étincelle divine en nous. Donc nous avons la capacité de créer, d'attirer, de manifester dans notre vie en fait ce qui a une correspondance vibratoire, d'accord ?
Ce qui est à l'intérieur.
Derrière, nous ne sommes pas Dieu, puisqu'il y a Dieu, mais nous sommes juste Dieu, la source, l'amour, la conscience. On parlait de la conscience ce matin. Nous sommes juste une étincelle de ça. Mais une étincelle de ça, c'est énorme. Tu vois, donc on attire des choses. Et c'est ça, vivre aussi le libre arbitre, qui nous amène toujours sur le chemin d'un destin qui est déjà connu à l'avance et qui se crée. Au même moment où on prend la décision. Donc ça, le mental ne peut pas le comprendre et me permet à chaque fois de faire l'expérience de ça. Donc c'est vrai que dans la notion de « je les ai créés dans ma vie », c'est une co-création qu'on a qui est au service de l'expérience, de l'évolution, de la conscience, qui fait l'expérience de la conscience par conscience. Et c'est magnifique, c'est très très beau comme cadeau. Je pense qu'il faut énormément d'amour pour être le mauvais coach.
Oui.
Il en faut beaucoup. Tu vois, où il faut être énormément d'amour pour pouvoir être celui qui va te permettre de te guérir en étant celui qui joue le mauvais coach. Tu vois ?
Tout à fait.
C'est ça, donc il en faut beaucoup d'amour.
Moi, je crois que j'avais beaucoup de foi.
Ah, ça, c'est sûr.
J'avais une détermination, mais pas que, parce que dans ma vie, j'étais déterminée à avoir quelque chose, je ne l'ai pas obtenu, donc je vois à peu près ce que ça veut dire aujourd'hui. Mais je crois que j'avais la foi de me dire, non, mais il y a autre chose.
C'est ça.
Je suis heureuse, je me sens heureuse. Non, il y a un truc encore. Parce que je n'ai pas touché cet espace où il n'y avait c'est pas ça. De mots. Il fallait que je le ressente. Pour le ressentir, il fallait que j'ai accès à mes émotions.
C'est ça.
Et j'ai été pendant de nombreuses années coupée de mes émotions. Ça ne veut pas dire que je ne pleurais pas, que je ne riais pas. Ça, je dirais que c'est packaging. C'est aller voir à l'intérieur ce que je ressens. Aujourd'hui, je suis c'est beaucoup plus clair sur mes ressentis. Tout de suite, je ressens. J'ai une émotion, je la ressens, je me dis.
Voilà.
Ah tiens, c'est une information, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue? J'ai dû m'entraîner parce que ça ne marchait pas.
Ouais.
J'y arrivais pas, déjà au départ je croyais que j'y arrivais pas. Mais parce qu'en fait j'étais dans une souffrance qui était là, la souffrance qui était la guérison. Et donc je retournais dans la souffrance que je créais, à laquelle j'étais addict, dans laquelle je me sentais bien parce que j'aimais ça. Et toi un jour tu me l'as dit dans un accompagnement, tu m'avais dit comme ça, et toi Lydia, t'aimes ça t'aime souffrir.
Oh, j'ai dit ça.
Oui. Et moi, j'étais là, je dis, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Non, mais t'aimes ça. Tu me disais, mais t'aimes ça. Et je te disais, mais non, mais si, tu aimes ça. Accepte. Au début, je me défendais. Je me disais, si c'était vrai. Et je suis allée regarder, je me suis dit, mais c'est vrai. Qui je suis sans ma souffrance? Qui je suis sans ma colère? Qui je suis sans mon argent, si on rentre dans la matérialité?
L'histoire.
Qui je suis sans mon histoire? Mais si, ça fait peur.
Oui.
Mais ça fait rien. C'est même quoi. De la souffrance pour aller là-bas dedans. De dire, mais je ne veux pas y aller.
Non.
Je ne veux pas y aller. Alors qu'en fait, j'ai une autre définition de la souffrance aujourd'hui.
Alors, quelle est ta définition de la souffrance?
Ben, je crois que j'en ai même plus. Hein. Non, mais j'ai une autre définition de la souffrance, c'est-à-dire que j'ai des émotions, mais je ne parle pas de souffrance. Moi, je souffrais parce que j'étais seule. Mais j'arriverais même pas à te dire souffrance dans le sens où je suis mal, en fait. Je me sens mal, je suis triste, je me sens triste, par exemple. Ça me fait souffrir de me sentir triste. Voilà, je pourrais dire ça. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un état de joie. Et je la refusais, cette souffrance. Et tu m'as appris, et tu m'as appris à l'accueillir. Mais moi, je ne comprenais pas ce que tu me disais. Je dis, mais elle me demande d'accepter d'être triste. Mais ça me fait souffrir. Pourquoi je vais accepter d'être triste?
Ou de nier, parce que oui, au début du parcours, je dis, il faut faire l'inverse. Oui. Au début, il faut nier cette souffrance.
Et donc, je me dis, mais pourquoi elle me demande ça? Mais non, tu es censée, toi, en tant que coach, en tant qu'accompagnante, m'aider à ne plus souffrir. Et tu me dis, non, accueille. Et ça a été, au départ, je ne voulais pas. D'ailleurs, je pense comme certaines femmes que tu accompagnes.
Oui, pareil.
Je disais non, je ne lâchais pas. Et tu le savais.
Pas le choix. Hein.
Tu le savais et tu m'as laissé le temps.
Il faut du temps.
Et tu m'as laissé le temps pour. Mais comme j'étais déterminée, j'avais la foi, je revenais. Je me disais, mais moi, je veux ça, moi.
Ouais. Et ça peut créer beaucoup de confusion, hein, ce que tu dis là. Je pense qu'il faut être vraiment déterminé pour aller dans ces espaces-là. Il y a des gens qui te diront, t'as besoin de rien, etc. Nous, peut-être que c'est ce qui marchait beaucoup. Moi, j'ai été mentorée comme toi. Hein. J'étais mentorée comme j'ai été mentorée. Et parfois, quand je me sentais humiliée, parce que mon mentor, parfois, pouvait dire des choses devant tout le monde et je sentais l'humiliation, en fait. Et c'est, en fait, ce qui me faisait souffrir, parce que tu parlais de souffrance. La souffrance, en réalité, dans mon monde, c'est à un moment donné, il y a une douleur. Quelque part dans le temps, d'accord? Moi, mes croyances, mon transgénération, peu importe. À un moment donné, il y a une douleur. Je me suis cogné le genou là, d'accord? Et en fait, maintenant, à chaque fois que je vois de la neige, d'accord? Mmh. J'ai la souffrance qui se réactive. Mmh. À chaque fois qu'il fait froid, j'ai mal au genou. Mais en réalité, en fait, c'est parce qu'il y a une douleur. Une douleur, c'est un instant précis. Une souffrance, c'est quand je maintiens la peur d'avoir cette douleur-là, parce qu'il y a cette mémoire-là.
On pourrait dire pareil du trauma et traumatisme.
Exactement, c'est la même chose. Mmh. Et donc du coup, je me trimballe ça parce qu'il y a une mémoire. Et comme on a dit, l'ego, il a peur de souffrir. Mais en fait, il a peur de souffrir, en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la peur de souffrir. Nous, on utilise ça. Mais l'ego, il utilise des moyens d'évitement de cette souffrance. Il te dit, non, on ne peut pas souffrir comme avant. Tu as vu comment on a souffert? Non, on a eu trop de douleurs, tu t'en souviens? Quelque part, ça a son importance. Tu vois, si à un moment donné, j'ai fait quelque chose et que j'ai appris, bah, il va me le rappeler. Là où ça devient problématique, c'est quand je me trimballe cette douleur parce que je ne l'ai pas réglée ici. Tu vois, elle est restée ici traumatique. Et c'est ça que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as tellement l'habitude de gérer tes émotions, de les comprendre, de savoir d'où ça vient, quelles sont les pensées, d'où ça vient par rapport à ton histoire, d'où ça vient par rapport à ton ego. Donc, tu as toutes ces informations et cette connaissance-là. C'est pour ça qu'on passe par le mental et la connaissance qui fait qu'à un moment donné, en mode, ouais, mais tranquille, là tout de suite maintenant, il ne se passe rien. Je suis en sécurité, je suis là, dans l'instant présent, c'est pour ça que c'est très riche l'instant présent, il ne se passe rien. Donc il n'y a plus cette souffrance-là. Il y a juste tout de suite, je ressens de la tristesse, d'accord? Peut-être parce que je viens de me cogner le genou, d'accord? Donc j'ai une douleur, je pleure, mon corps se met à pleurer, d'accord? J'ai une tristesse peut-être parce qu'il y a une mémoire qui va revenir, mais tout de suite c'est, non, je suis là, ça se passe bien. Et donc il n'y a plus la souffrance, parce que l'ego, c'est un mécanisme d'évitement de la souffrance. Le mécanisme d'évitement de la souffrance, en réalité, c'est une zone de confort très inconfortable qu'on continue à utiliser. Parce que l'ego, son intérêt, c'est de cacher cette souffrance-là en nous disant « tu ne vas plus souffrir, t'inquiète ». Mais en réalité, c'est faux, parce que cette souffrance-là, il faut venir la rencontrer pour qu'elle puisse guérir. Et du coup, l'ego, ça l'intéresse de continuer à cacher ce mécanisme-là parce qu'il continue à se nourrir de la souffrance qui est cachée. Donc, il a tout intérêt à faire ça. Mais quand je commence à prendre ma responsabilité, je prends cette souffrance, ça va me piquer. Là, je me sens humiliée.
Oui, revenons-en. Ouais. Revenons au fait que ton mentor, voilà, tu ressentais de l'humiliation quand il t'accompagnait.
Quand il m'a accompagnée à plusieurs reprises, lui, il me regardait et puis il me faisait devant tout le monde. Ou par exemple, un jour, je lui dis, est-ce que je peux venir, moi, participer à l'événement ce soir? Et devant tout le monde, il a dit non.
Et donc, toi, il s'est passé quoi?
Moi, à l'intérieur de moi, j'avais chaud, j'ai la honte, le rejet, l'humiliation devant tout le monde. Et en fait, il me regardait et il partait.
Et lui, il savait que ce qui se passait en toi,
bien sûr,
là, en tant qu'accompagnant.
Mais bien sûr, il le sait. Mais là, il travaille, en fait, justement, le mécanisme de l'ego, c'est vraiment quelque chose de magnifique à voir. Parce que quand il m'a fait ça, ça a été un des plus grands enseignements, la preuve. Tu vois, j'en parle encore aujourd'hui. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai vu la honte et le rejet, donc l'humiliation et le rejet à ce moment-là, qui n'était pas du tout son intention, il n'est pas là-dedans, il est dans l'apprentissage, il est là pour m'apprendre ça. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce que j'en fais? Et bien je vais pouvoir aller travailler cette blessure-là. Le jour où il me dit non, et puis moi je fais, d'accord, tu vois, et
bien là, qu'il y a pas
ça
de...
y est, il n'y a plus guéri. Exactement.
On est à 40 minutes.
Oh, donc on va commencer à aller vers la
conclure.
Ouais, on va commencer à conclure. Donc voilà, donc, ce qui est intéressant, c'est, moi aujourd'hui j'accompagne sur les mécanismes, parce qu'une fois que je comprends comment fonctionne le mécanisme, parce que je pense que c'est ça qui peut créer beaucoup de frustration chez beaucoup de femmes, qui ont compris, elles ont lu, d'accord, comment il fallait faire du vélo dans les livres, c'est trop bien, il y a cette selle-là, il y a tel type de compète, voilà, elles ont tout lu dans le livre, mais après concrètement, comment je me l'applique à moi? Quel genre de vélo, en fait, aujourd'hui, je suis capable de rider? Quelle est ma morphologie par rapport à mon vélo, etc. Il faut aller comprendre le mécanisme, comment ça marche et où l'ego appuie. Parce que tout à l'heure, tu as parlé d'un mécanisme en vrai qui est en place, qui est dans la souffrance, qui vient faire référence au corps de souffrance dont parlait Carl Tolle. Quand ce corps de souffrance est activé, la souffrance est en place et l'ego commence à se nourrir. Par contre, dès que je reconnais le corps de souffrance, hop, je pourrai prendre de la distance et me dire, ok, opportunité de le guérir. Là, les mécanismes de libération émotionnelle et tout ce qu'on connaît et qu'on voit dans l'école ou dans différents enseignements. Et c'est là, dans ce moment d'inconfort terrible, qui est la honte, qui est, voilà, la blessure, elle est ouverte, elle est à la vue de tout le monde, vulnérabilité, tout ce que tu veux et tout, et ben c'est là où il y a une opportunité d'aller. Et ça, c'est très inconfortable, et c'est pour ça que les accompagnements qu'on a eus, toi et moi, et ben c'est des accompagnements qui, en permanence, viennent challenger, en fait, cet espace d'ego. Et c'est là où ben, on peut pénétrer dans un espace qui est, ben, je ne suis pas ce que je crois être, qui est ce corps de souffrance.
Et je continue encore, hein, de toute façon, parce que c'est un apprentissage de tous les jours, sauf que maintenant, j'ai des outils. J'ai des outils et une pratique, un entraînement, je dirais, hein, comme un sportif. Hein. Et parfois, je ne vais pas à l'entraînement.
Tu ne vas pas à l'entraînement, mais de ce que tu m'as dit, c'est que tu as vécu, en fait, ces derniers mois, après des années de pratique, tu commences à vivre, en fait, la diminution de l'intensité.
C'est voilà. Plus rapide
exactement
pour moi, voilà, d'aller dans des espaces.
Voilà,
je dirais que c'est plus rapide.
Voilà.
Alors qu'avant, il me fallait beaucoup plus de temps pour comprendre.
Tout à fait.
Et ça n'a rien à voir avec la maturité. Hein. C'est juste l'expérience et le travail sur soi.
C'est ça.
Anissa, je viens d'avoir dans l'oreillette que je n'ai pas un message qui m'indique que le podcast Zarbia arrive à sa fin. Peut-être juste partager ton actualité parce qu'il y a un événement, je crois, à la fin du... Non, au mois d'octobre, il me semble.
Au mois d'octobre,
est-ce que tu peux nous en dire deux petits mots pour conclure?
C'est en fait ce que je pourrais dire, bon, c'est un événement qui a lieu le 7 octobre à la Tour Eiffel. Donc c'est un rêve que je nourrissais secrètement et qui s'est manifesté concrètement dans ma réalité. Ce que j'aime avec cet événement, parce qu'en fonction de quand les gens verront le podcast, c'est surtout que c'est une réelle opportunité pour nous de justement amener les âmes à vivre l'expérience qui est en dehors des mots et d'en faire l'expérience concrète dans l'un des lieux les plus emblématiques au monde quand même, et pour prendre cette hauteur à la rencontre de l'amour que nous sommes.
C'est magnifique, ça a lieu le 7 octobre.
7 octobre à la Tour Eiffel.
À la Tour Eiffel, et c'est tous les renseignements sur
le site
anissalalaoum.com.
Voilà. Et sinon, il y a les artisanes pour tout le reste du temps, qui est l'école initiatique qu'on a créée avec Géraud.
Mais on peut déjà venir goûter un petit peu. J'aime bien, j'ai faim, je crois. On peut venir goûter un petit peu ce que tu expliques lors de cet événement.
Oui.
Merci Anissa, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui.
Pareil, merci pour ton expérience.
À bientôt.
À bientôt.